dans un dossier fascinant issu des archives inédites de Jazz Magazine. Je suis ravi d'explorer ça.
Ouais, des archives vraiment incroyables. Je suis toujours fasciné par ce genre de trouvailles.
L'objectif de notre exploration, c'est de mettre en lumière une période méconnue, celle entre 1958 et 1964.
Exactement. La période où Serge Gainsbourg plaçait le jazz au cœur de son identité musicale.
Bien avant de devenir l'icône pop qu'on connaît tous, quoi. Ok, décortiquons tout ça. Il faut se replonger en 1948.
Oui, quand le jeune Lucien Gainsbourg a tout juste 19 ans.
Et là, il est foudroyé par la modernité du bebop.
En écoutant un concert de Dizzy Gillespie à la radio parisienne.
C'est l'étincelle. Mais ça prend un peu de temps avant de se concrétiser en studio, non?
Ben, en effet, oui. Ça prend une bonne décennie. En 1958, on le voit passer de pianiste de bar amateur...
Celui qui chantonnait des standards. Ben.
C'est ça. Il passe à un véritable artiste d'enregistrement. La bascule se fait grâce à l'alliance avec l'arrangeur Alain Gorager.
Et il s'entoure de pointures absolues.
Ah oui, le niveau technique est fou. On parle de Pierre Michelot à la contrebasse et Christian Garros à la batterie.
Attends, une section rythmique tellement infaillible qu'elle accompagnait Miles Davis en tournée. C'est immense, hein ?
Complètement. Il avait un rapport presque atypique avec les meilleurs musiciens de jazz.
Du coup, il y a cette anecdote savoureuse avec Martial Solal.
Très révélatrice de son obsession. Gainsbourg paye le pianiste virtuose pour un concert privé chez lui, mais sur un piano mécanique.
Un piano Yamaha qui enregistre les touches et la pression, oui.
Et voilà. Ce qui lui permettait de se vanter de posséder la cassette la plus chère du monde.
C'est brillant, et on voit bien qu'il ne restait pas figé dans un seul style.
Ce qui est fascinant ici, c'est sa capacité à absorber l'avant-garde. Il capte les mutations en temps réel.
Comme l'arrivée d'Eddie Lewis sur l'album numéro 4.
Un prodige de 21 ans qui amène l'orgue Hammond B3.
Ce qui donne un son très chaud et claquant.
Voilà. Et l'année suivante, virage à 180 degrés avec l'album Confidentiel. C'est du minimalisme absolu.
Juste une contrebasse et la guitare d'Elex Bassick.
Et puis on arrive à l'album Gainsbourg Percussions, en 1964.
Où il recycle des thèmes du Nigérien Babatunde Olatunji.
De son album Drums of Passions.
Presque littéralement, oui. Ça donne des titres comme New York USA.
Et au milieu de ce mur de percussions, il laisse une liberté totale au saxophoniste Michel Portal.
Michel Portal racontera d'ailleurs avoir pu jouer sans aucune contrainte. Mais curieusement, tout s'arrête brusquement l'année d'après, en 1965.
Bah, les ventes ne suivaient pas.
Face aux échecs commerciaux, il abandonne complètement le jazz.
Il jugeait cette musique trop complexe ou même trop érotique pour le grand public.
Donc il bifurque vers la pop.
Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on a une formidable leçon. Les succès les plus accessibles d'un artiste
reposent très souvent sur une fondation technique redoutable.
Exactement. Issue d'une passion de niche très pointue. La pop de Gainsbourg n'aurait jamais eu cette envergure sans la rigueur de ses premières années de jazz.
C'est vraiment une fondation invisible, mais essentielle. Ce qui amène à une dernière question à garder en tête en refermant ce dossier. Si la contre-culture parisienne de l'époque avait massivement acheté ses premiers albums jazz, la pop francophone d'aujourd'hui existerait-elle sous sa forme actuelle?
Où aurait-elle aussi lié une évolution radicalement différente dictée par l'improvisation et le swing?
Voilà de quoi nourrir la réflexion. Merci pour cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.
Thank you.